Il nous faut parler sur la Pâque. On a chanté tout à l'heure « Ta mort à la Pâque ». Et souvent, des gens m'ont dit « Mais enfin, il n'est pas mort à Pâques, il est mort le Vendredi Saint ». Mais Pâques, dans la Bible, ce n'est pas seulement le dimanche matin. C'est toute une semaine de fête qui rappelait la sortie d'Égypte, qui est la libération, notre libération à tous. Et en souvenir de cette libération, on mangeait un repas en famille avec les amis, c'était joli quand même, le repas de Pâques, où il y avait un agneau avec des herbes amères, peut-être de la chicorée. Et puis cet agneau représentait celui qui devait venir, on ne savait pas qui. Mais quand il s'est présenté à Israël, Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le vrai, pas un mouton, le Seigneur. » Alors, on va parler sur la Pâque, qui est un côté terrible, la mort de Jésus, et la Pâque avec ce côté lumineux qui est la résurrection de Jésus. Je vais lire avec vous un texte seulement dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 1er. Relisons l'histoire du tombeau, enfin de la vie de Jésus. Jean chapitre 20, verset 1er. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, entre parenthèses, c'est Jean, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais pliées dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier, c'est Jean, au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Amen. Mais ce ne sera pas pour longtemps. Amen. Car le Seigneur va les retrouver et il va les envoyer dans le monde. Avant de vous parler de cette résurrection, quand je relis l'évangile de Jean, qui est magnifique, Jésus, à la dernière soirée avec ses disciples, il va faire un très grand discours. Pas un discours sur un podium, il va leur parler à table pendant peut-être quelques heures. Alors parlez, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas, croyez en Dieu, croyez en moi, je vais vous préparer une place. Il les prépare, il les enseigne pour qu'ils ne soient pas déboussolés devant la mort de Jésus. Dès que Jésus a fini ce message d'adieu, d'amour, les violences vont tomber sur Jésus. Les trahisons, les lâchetés, comme des flèches. Pourtant, Jésus disait, juste avant que ça commence, il priait en disant, « Père, je te prie afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Ma joie parfaite. Joie parfaite. J'en connais beaucoup qui auraient été de mauvaise humeur devant les hypocrisies, les lâchetés, les violences, les coups, les crachats que Jésus va recevoir pendant toute une journée, pratiquement. qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Pourtant, Jésus n'est pas un être blindé, insensible, en disant « Vous pouvez me taper dessus, moi je suis dans la joie. Moi je ressens rien. Vous pouvez y aller, je ressens rien. » Devant Jérusalem, le dernier soir, il a pleuré. Il a pleuré devant cette ville, oh, pas tous bien sûr, mais cette ville qui le refusait et qui se préparait à le crucifier. Il refusait le Christ. Il refusait la main tendue de Dieu à travers le Christ. Il n'est pas insensible à tous les coups qu'il reçoit. Après le souper avec ses disciples, il va dans un jardin qu'il connaissait bien, il y allait souvent, il devait discuter beaucoup avec les apôtres. C'est le jardin de Gethsémané, au pied des murailles de Jérusalem. C'est un petit jardin où il y a des oliviers. Et comme c'est le printemps, je pense que les oliviers sont tous en feuilles, c'est très sombre, mais c'est très beau, c'est très doux. Et là, dans ce jardin qu'ils connaissent, Jésus va avoir de l'angoisse. Il va être triste jusqu'à la mort, triste à mourir, triste à mourir. Il va se jeter par terre de tout son long, il va se mettre par terre, couché par terre, en suppliant Dieu avec larmes, en suppliant son Père de retirer la coupe d'amertume de la mort qui approche de lui. Et quand il va voir les soldats venir avec Judas, avec des lanternes, avec des lances, avec des flambeaux, là il va ressentir toute la haine, toute la méchanceté de Judas contre lui. Nos péchés le frappent. Il va être victime d'hypocrisie, de mensonges, de violence, de méchanceté, de calomnie. Et tous ces péchés nous frappent aussi, n'est-ce pas ? Et frappent Jésus. Il prend le péché qui nous atteint et le prend sur lui. Et quand il va se retrouver quelques minutes plus tard devant le tribunal du sacrificateur, du grand prêtre juif, le grand prêtre de tout Israël, l'homme qui enseigne tout le temps, le Messie va venir, le Messie va venir, le Messie va venir, il va se retrouver devant Caïphe. Et là, Caïphe va lui dire, un homme imposant, Caïphe, il va lui dire, qu'est-ce que tu enseignes à tes disciples ? Qu'est-ce que tu dis à tes apôtres ? Qu'est-ce que tu racontes pour qu'on t'ait livré comme ça ? On ne sait pas tout ce qui va se passer entre Caïphe et Jésus. On sait qu'une chose. Dans cet interrogatoire au tribunal avec Caïphe, il y a un homme qui va dire dans le secret, dans l'ombre, il est en train de se chauffer les mains, il fait un peu frais ce soir-là. Le soir, le jeudi saint, comme on dit, c'est un peu frais, il va se chauffer les mains. Et dans l'ombre, derrière tout le monde, là, il va dire, je jure, je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu. C'est l'apôtre Pierre. C'est une flèche qui traverse le cœur de Jésus. Si votre enfant vous disait, je ne connais pas cette femme, je ne l'ai jamais vue. Je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu. Quel flèche de désespoir, de mort, vous traverserez. Et Jésus dira à Caïphe, ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté. Autrement dit, il te faut des témoins, demande ce que j'ai enseigné. Et là, un huissier, un gardien de la porte, là, au service d'accueil, il va venir vers Jésus et il va le gifler. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle au sacrificateur Caïphe ? Gifle, terrible. Jésus dira très calmement, si j'ai dit quelque chose de mal, dis-le-moi. Si j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes ? Il prend là l'injustice. Il prend la méchanceté et les soldats vont le lier, vont le ligoter avec des chaînes. Il ne se défend pas, il ne fait pas tomber les soldats comme il a fait au jardin de Gethsémané. Quand ils sont venus, il leur a dit « Qui cherchez-vous ? » Tout le monde est tombé par terre. Ils se sont relevés. « Qui cherchez-vous ? » Par terre. Il s'est laissé. Il est donné, le Christ nous est donné, livré, abandonné dans les liens de la haine et de la mort. Devant Pilate, qui est le préfet de la Judée, on a retrouvé il y a quelques années, c'est pas vieux, on a retrouvé une inscription en Israël avec ceci décrit: Ponce Pilate, préfet de Judée. Donc c'était bien la vérité, il était là-bas, Ponce Pilate. J'aurais pas voulu être préfet en Judée à cette même époque, et vous? Et c'est lui le dernier, Ponce Pilate, qui va décider pour Jésus. Mais Pilate est un homme intelligent, un peu lâche, mais intelligent. Et Jésus, pour la dernière fois de sa vie, Jésus va lui montrer à Pilate qui il est. C'est le dernier enseignement de Jésus. Je suis venu dans le monde, dit Jésus à Pilate, pour rendre témoignage à la vérité, pour dire quelle est la vérité de mon Père. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit ça à Pilate, préfet de Judée, un Romain, un idolâtre, un homme pervers, lâche, méchant. Mon royaume n'est pas de ce monde. Autrement dit, je viens d'ailleurs, je viens d'un autre monde et je viens visiter la terre, mais mon royaume n'est pas d'ici. Et celui qui aime la vérité de Dieu, écoute ma voix, entend mon appel. Et il dira même à Pilate: tu as un pouvoir sur moi parce que Dieu t'a donné un pouvoir sur moi. Pilate pouvait un petit peu rouler des mécaniques, comme on dit. Ah bon, j'ai un pouvoir sur toi. C'est Dieu qui t'a donné le pouvoir de me conduire à la mort. Et Jésus, là, il se défait de tout pouvoir. Il s'anéantit. Il s'humilie jusqu'à être un esclave, jusqu'à la mort. Quand Pilate dit à la foule: mais puisque c'est Pâques, puisque c'est fête chez les Juifs, est-ce que vous voulez qu'on libère un prisonnier? Jésus, votre roi. Toute la foule crie: non, Barabbas! Libère-nous Barabbas, ce brigand. Terrible, hein? Mais alors, que ferais-je de Jésus, le roi des Juifs? Débarrasse-nous de cet individu. Ôte, ça veut dire débarrasser, ôte la table. Ôte-le, débarrasse-nous de lui, crucifie-le. Pourtant, Pilate dit des vérités. Voici l'homme, ça veut dire le plus grand des hommes, l'homme parfait, l'homme comme nous devrions être. Voici votre roi. Crucifierai-je votre roi? Il dit des vérités. Je vous pose une question. Pas facile à répondre. Qu'auriez-vous fait à la place de Pilate, qui avait le pouvoir de le relâcher? Qu'auriez-vous fait? Je vous laisse 5 minutes pour réfléchir. Pas simple, hein. Fallait-il sauver Jésus? Je ne vais pas demander ceux qui disent « oui, il fallait le sauver » de lever la main, ou ceux qui disent « non, il ne fallait pas le sauver, il fallait le crucifier » de lever la main. Hein. Moi, personnellement, je pense que... Vous attendez la suite? Il ne fallait pas que Pilate essaye de le sauver. Il ne pouvait pas d'ailleurs. C'était une complication. S'il commençait à toucher à Jésus, il disait: si tu libères Jésus, tu n'es pas ami de César, ton patron. Donc tu vas te licencier. C'est dur d'être licencié, hein, quand on est préfet de la Judée. Je vais vous dire la vérité. Si j'avais été à cette époque-là, je n'aurais pas dit... Certainement, je n'aurais pas eu le temps de dire « libère Jésus », ou condamne Jésus, j'aurais plutôt dit, surtout pas condamne Jésus, j'aurais pas dit ça, j'aurais simplement dit que la volonté de Dieu, notre Père, soit faite. C'est tout. Parce que le drame de Jésus, c'est notre salut. C'est notre délivrance. C'est la clé du ciel. Souvent, j'ai entendu des gens dire « Quelle honte ! Quelle honte ! Ils ont crucifié Jésus ! C'est une erreur ! Il n'aurait pas dû ! C'est une souffrance injuste !» Maintenant que la Bible est finie, c'est facile à dire. Hein. Il fallait qu'il soit crucifié. Il le fallait. Et Jésus lui-même le dit, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié. Il le faut. Donc personne ne pouvait arrêter la machine infernale, le processus. Mais quand même, les chefs religieux de cette époque, on ne va pas leur jeter la pierre. Hein. Chef religieux préfère Barabbas, un brigand, à Jésus. Et Jésus, il a préféré notre vie à sa vie. Il nous a préféré à lui-même. Il a renoncé à lui pour nous. Je ne sais pas si c'est pour faire réagir les enfants d'Israël que Pilate a dit « Je vais écrire sur un panneau ». Il a mis un petit panneau, un petit panneau sur la croix, Jésus de Nazareth, vous savez la suite, roi des Juifs, en hébreu, en grec, en latin. Comme cela, quand les gens verront, il y avait des foules, des milliers de gens qui sont passés, quand ils ont vu Jésus de Nazareth, roi des Juifs, certains auraient pu dire, « Ah, mais quand même, mais chérie, ce soir, dis-moi à la maison, oui ou non, est-ce qu'on crucifie notre roi ?» Il n'y en a qu'un qui a réagi. Le brigand sur la croix. Quand il a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Le seul. Le panneau n'a fait réagir personne. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Oh, je suis même certain que certains ont dit « Oh, Nazareth oh, !» Évidemment, un patelin comme cela, que peut-il venir de bon de Nazareth? C'est ce qu'on disait à l'époque. Il ne vient rien de bien de Nazareth. Personne n'est sorti de Nazareth. Aucun prophète, aucun homme valable, aucun rien. Il vient rien de bon. Alors, Jésus est dans l'humiliation. Et Pilate dans un tourbillon. Il ne peut pas réagir. Personne ne peut réagir. Surtout que après la mort de Jésus, vers la fin de la crucifixion, plutôt vers la fin de la crucifixion, il y a quelqu'un qui a dit à Pilate, « Pilate, tu nous permets de casser les jambes des prisonniers pour qu'ils soient évacués avant le sabbat, parce que le sabbat, c'est précieux, on ne peut pas entrer dans le sabbat avec des morts sur une croix. » là. Et Pilate a dû dire, « Oui, cassez leurs jambes, brisez-les, pour qu'il s'affaisse et qu'il meure. » Mais pourtant, dans la Bible, il est écrit, « Aucun de ses os ne sera brisé. » Alors le soldat, d'un coup d'épée, casse les jambes, les os du premier malfaiteur à côté de Jésus. D'un coup d'épée, il casse les deux fémurs de l'autre prisonnier, de l'autre malfaiteur à côté de Jésus. Et Jésus, il est déjà mort. Ainsi s'accomplit la parole de Dieu. Aucun de ses os ne sera brisé. Mais voyant qu'il est déjà mort, pour bien s'en assurer, il lui transperce le côté avec sa lance. Nous arrivons maintenant à la résurrection. Je dois vous dire que tous ces événements de la Pâque, du jugement de Jésus, de la mort de Jésus, de la résurrection, tout ça, ça s'est passé dans l'inconscience des apôtres. L'inconscience de tout le monde. Personne n'a vu la belle histoire unique dans l'histoire du monde. Le Jésus leur avait pourtant dit, répété, La leçon était oubliée, comme les enfants de l'école. Ils avaient oublié tout cela. Mais mes amis, pour nous, c'est la même chose. Tout s'est décidé avant nous. Notre salut a été décidé avant que le monde existe. Vous étiez déjà vus de Dieu avant que vous existiez. Comme la mère qui porte un enfant dans son sein, et l'enfant, il ne le sait pas, mais la mère, elle dit, je sais que j'ai un enfant, je pense à mon enfant, j'aime déjà mon enfant. Non ? Avant la fondation du monde, dira l'apôtre, alors que nous étions éloignés de Dieu, Dieu nous aimait et Dieu avait tout préparé. On ne l'a pas demandé le salut, il nous a été donné. Mais tout le monde est dans le brouillard. Le jour de Pâques, Marie de Magdala avec deux autres femmes, vont sur le tombeau de Jésus pour surembaumer Jésus. Déjà, Nicodème lui avait donné 30 litres de parfum, 30 litres d'aromates qu'il a serré, il a dû mettre du temps pour serrer tout ce parfum sur Jésus avec des bandelettes. Joseph d'Arimathée, quand il a pris le corps de Jésus, lui a mis un grand suaire, un grand linceul. Il a recouvert le corps de Jésus d'un grand drap. Puis juste après, Nicodème est venu, ils ont enlevé le drap et puis ils ont mis des bandelettes avec des litres de parfum sur lui. Et Marie de Magdala, elle va encore pour rajouter du parfum. Comme si elle voulait conserver le corps de Jésus, le conserver dans la mort. Parce qu'un corps dans la tombe, ça sent très vite dans cette région. Elle veut le conserver, le tenir mort. Et elle ne pense pas du tout, pas un instant, à la résurrection. Quand elle a vu la pierre qui était ôtée, elle est un peu rapide, Marie de Magdala. Elle est vive. C'est une soupe au lait. Quand elle a vu la pierre ôtée, hop, elle est partie tout de suite. Elle est partie tout de suite le raconter à Pierre et à Jean. Parce que pour elle, la pierre qui était une lourde pierre ronde, le fait qu'elle soit ôtée, ça voulait dire que, pas que Jésus est ressuscité pour elle. Elle dit, comment c'est pas ? Ça voulait dire qu'on avait volé Jésus. Ils ont pris le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. L'évangéliste Jean dit, il faisait encore obscur. C'est beau. Je pense qu'il faisait obscur dans sa tête aussi. Ce n'était pas encore la lumière dans le cœur de Marie de Magdala. Je crois que pour bien des gens, dans la ville de Rennes et partout, il fait encore obscur. On ne sait pas où l'on va, on ne sait pas pourquoi on vit, on ne sait pas comment affronter les problèmes de la vie, du jugement dernier, de Dieu, de la mort, on ne sait pas. C'est dommage qu'elle est partie si vite, cette soupe au lait qui est agréable, Marie de Magdala. Parce qu'il y a un ange qui est apparu, elle était plus vite que l'ange. Et l'ange, il a parlé aux deux femmes qui étaient là, il leur a dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant, vous connaissez la parole. Et elle, bouf, elle est partie déjà, elle n'a pas attendu l'ange, elle est partie, qu'est-ce qu'elle va dire aux apôtres ? Vous savez, si Dieu ne nous révèle pas les choses, on ne sait rien. Le mystère du Christ n'est pas monté naturellement dans notre cœur. On n'aurait jamais pensé à une histoire semblable. Qu'est-ce qu'elle va dire aux apôtres, pas seulement une question angoissante. Ils ont enlevé le Seigneur. Et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Ils, qui ? Ils, c'est qui ils ? C'est qui on ? On m'a dit qu'il ne faut jamais dire on. Les apôtres, je ne pense pas quand même. Les soldats, non, ils gardent la tombe. Pilate, oh, non, je ne crois pas. Je ne sais pas, moi. Ils ont enlevé le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Elle veut récupérer le corps. Voilà, on n'a pas le temps de le lire. La suite de l'histoire, quand Jésus apparaît à Marie de Magdala, Marie de Magdala, elle dit « Dis-moi où tu l'as mis ». Elle pensait trouver le jardinier. « Dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai, je prendrai son corps. » Écoutez bien, ça fait un peu macabre comme histoire. Elle dit « Je récupérerai son corps, qu'est-ce qu'elle va en faire ?» Le ramener chez elle. Tout cela pour vous dire que la résurrection de Jésus n'est pas une invention des disciples. Ils n'y croyaient pas. N'est pas une invention des chrétiens. C'est un événement historique qui s'est imposé aux chrétiens, aux premiers disciples. Les apôtres courent, ils ont entendu, ils ont levé le Seigneur, ils ont levé le Seigneur. Pierre et Jean, vous aimez Pierre et Jean ? Ils sont formidables. C'est des hommes du tonnerre. Ils courent. Mais Jean est un peu plus sportif, un peu plus jeune. Il arrive le premier. Mais c'est un garçon poli, un garçon gentil. Lisez l'évangile de Jean, vous serez émerveillés. Il arrive, pleine forme, Jean, puis Pierre qui suit. Il attend Pierre, qui va entrer le premier dans la tombe. Jean s'est quand même penché, il a regardé, en grec, attentivement. Il a vu le linge, mais il n'est pas rentré. Politesse, c'est beau la politesse. Ça nous manque chez nous, vous ne trouvez pas, dans notre civilisation. Et ensuite, Pierre est entré, essoufflé. Je crois que c'était une grotte avec des marches qui descendaient légèrement. Il est entré dans la grotte, dans la tombe, et il a regardé avec insistance, en réfléchissant. Mais qu'est-ce que je vois ? Mais qu'est-ce que je vois ? Il voyait des bandelettes tout à leur place avec les aromates, ils voyaient tout était là, parce que c'est compliqué de mettre des bandelettes autour d'un corps, autour d'un cadavre avec des parfums, des fleurs, des feuilles, toutes sortes de parfums végétaux. C'est compliqué. Et si Jésus avait voulu s'en aller, il fallait enlever tout, il fallait tout mettre par terre, il fallait mettre du désordre dans la tombe. La tombe est restée parfaitement nette avec les bandelettes et puis toutes les aromates. Il a compris, Jésus est ressuscité et il est passé à travers les aromates et à travers les linges. C'est beau. Il n'a pas dit comme... Le soir, j'enlève ma veste. Bon, j'enlève ma veste. Non, il est passé. Il est passé à travers. Rien n'a bougé. Pas une feuille. Il est ressuscité avec un corps nouveau, d'une autre création. Ce n'est pas un esprit qui est parti. Quand il verra plus tard, un petit peu plus tard, il verra les apôtres, il leur dira « Touchez-moi, j'ai des os, hein, j'ai des os, allez-y. Thomas, avance ta main. » Il a des os, un estomac, des cheveux, des pieds, des mains, d'une autre création. Comme Dieu a de l'imagination, amen, comme Dieu a de la capacité. Il crée un être humain, l'identique, mais différent. Nous, on ne sait pas être différent, on n'aime pas trop la différence d'ailleurs. D'ailleurs, quand on a deux gâteaux, on ne sait jamais lequel choisir. Lequel je vais choisir ? Dieu va recréer à travers Jésus, et pour nous, une autre création. Souvent, les gens me disent, mais est-ce qu'on mangera dans le ciel ? Regardez Jésus, il a mangé du poisson, il a mangé du miel, il a mangé avec ses disciples pendant 40 jours et il était ressuscité. Et il nous a dit, vous mangerez avec Abraham, Isaac et Jacob. Pas auprès d'Abraham parce qu'il mange beaucoup. Mais nous mangerons avec eux. Et le sueur qui était sur son visage ? Un petit suaire, un petit linge, on couvrait le visage des morts, on ne regardait pas le visage des morts, on mettait sur eux un linge, et quand Jésus est ressuscité, le linge, en grec c'est ça, c'est, il s'est roulé, quoi, il s'est roulé. Il ne s'est pas plié tout seul, il s'est roulé. Il a pris une forme arrondie, la forme de la tête, et plus personne dessous. Jésus était parti. Mais le suaire était resté. C'est beau, hein ? C'est la résurrection. Pas une réanimation. Quand Lazare a été ressuscité pour quelques années seulement, eh bien, il est sorti avec ses bandelettes, il est sorti avec son suaire. Mais là, Jésus, c'est autre chose. Impossible de sortir de tout l'appareillage de Nicodème, impossible de sortir sans être vraiment ressuscité. C'est impossible. Et Jean, il a vu le linge. Il a vu le suaire, il a vu. Et pour lui, ça a été comme un signe, pas une preuve. La preuve, je pense que c'est Dieu qui nous la donne dans notre cœur. Mais un signe. Il n'est plus là. C'est un signe qu'il est vivant. Je pense au psaume 18, « Les liens de la mort m'avaient environné, mais le Seigneur m'a délivré parce qu'il m'aime. » Ce linceul sur le portrait, sur le visage de Jésus, ce linceul qui s'est roulé, qui s'est affaissé, c'est le même mot que le linge qui était sur le visage de Moïse pour qu'on ne voit pas la lumière de Moïse. Et je pense que ce linceul qui était sur son visage, eh bien, il a été roulé pour qu'on voie la lumière, pour que l'on voie la gloire de Jésus. Ils verront ma gloire. Vous verrez la beauté de Jésus. Mais vous serez semblables à lui. Tout ça, c'est l'espérance chrétienne sans laquelle nous sommes les plus malheureux des hommes. Quand j'étais enfant, je ne suis jamais parti en vacances. Jamais. À l'école, les copains allaient dans les colonies de vacances. Moi, j'étais resté, je ne vous dis pas comment, dans notre village, au pied de la maison. Mais quand on recevait une carte postale, on disait, oh là là, la mer de glace, les Pyrénées, le Massif central. Et puis nous, ben, on n'avait rien, on était malheureux. La carte postale nous rend encore plus malheureux. Et l'apôtre Paul, il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, il vous a montré quelque chose de beau, mais il n'y a rien pour vous. Circuler, il n'y a rien à voir. On serait malheureux. Mais il est ressuscité. Amen. Jean a cru. Je ne sais pas ce qu'il a cru. Peut-être qu'il a cru que Jésus, tout à coup, était reparti au ciel, avec son corps devenu glorieux. Parce que, dit la Bible, il ne comprenait pas que selon la Bible, il devait ressusciter, se relever. Exactement, c'est se relever de la mort. Avec des os, avec des dents, avec des yeux, dans un autre corps. Mes amis, nous sommes destinés à quelque chose de grand et de beau. Que le Seigneur vous encourage dans vos combats. Le Seigneur vous soutienne dans l'espérance que vous menez pour vos enfants, votre maison, votre foyer. Que Dieu vous soutienne dans les prières que vous faites. Elles ne retombent pas sur la terre, elles sont accueillies par le Seigneur dans des coupes. Que Dieu vous garde parce que l'espérance qui est devant nous dépasse toute l'imagination, tout ce qu'on peut penser. Tout ce qu'on pourrait demander. On n'aurait jamais pensé demander à Dieu un autre corps. Mais Dieu l'a fait. Il est en train de le faire. C'est pas encore, c'est fait et c'est encore à venir. C'est fait pour Jésus, ce sera bientôt pour nous. Amen. Mais alors, pasteur, mais mon mauvais caractère, vous y pensez pas? Quand je vais ressusciter, comment je vais être? Toujours aussi acariâtre, compliqué, avec des petites pics de méchanceté, des petites aiguilles. Est-ce que je vais toujours avoir envie de voler ou de mentir? Il y a une belle parole que j'aimerais vous dire pour terminer. Paul dit, nous désirons revêtir ce corps de résurrection afin que tout ce qui est mortel en nous soit englouti par la résurrection. Eh bien, quand nous ressusciterons, il y a beaucoup de choses en nous qui seront englouties. C'est dans 2 Corinthiens 5, verset 4. Beaucoup de choses seront englouties dans la résurrection. Nos fautes, merci Seigneur, on n'en parlera plus. Vous n'êtes pas content ? On ne parle que de la faute. Regardez votre journal demain matin, il n'y a que des péchés partout. On ne parle que de péchés, que de violences, de guerres, etc. Nos faiblesses humaines seront englouties par la résurrection. Tout sera détruit par la résurrection. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mortel, tout ce qui fait partie de la faiblesse de l'humanité. Notre salut, il sera total. J'aime bien le dire. La mort ne garde... Nous allons ressusciter pour être avec Dieu dans un corps glorieux, semblable au corps du Christ. Et c'est pourquoi le Christ a reçu la résurrection pour nous la donner. Il disait souvent, je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. Il vivra quoi que meure. Je le ressusciterai au dernier jour. Mais c'est la beauté. Mais les chrétiens sont les plus heureux des hommes. Amen. Peut-être pas les plus riches, mais les plus heureux. Quoique si, les plus riches, c'est quand même nous. Mais notre royaume n'est pas de ce monde. Amen. Vous pensiez avoir de l'argent dans la poche. Notre royaume n'est pas de ce monde. Que le Seigneur vous soutienne et vous encourage. Et que le Seigneur fasse de vous des suiveurs, des disciples. À votre place, moi, je me convertirai. Parce que il n'y a pas trois voies, il n'y en a que deux. Le chemin étroit ou le chemin large. Jésus ou rien. Vous direz, vous ne nous laissez pas beaucoup de choix. Je ne fais que de répéter la Bible. Jésus ou rien. Je suis sûr que vous préférez quand même Jésus que rien. Que Dieu vous accorde sa bénédiction. Que votre maladie soit chassée, que votre déception soit guérie, que votre découragement reçoive le souffle magnifique de la résurrection. Amen. Marie de Magdala, je vous dis la suite, c'est la première évangéliste du monde. Parce qu'elle a évangélisé dans le sens qu'elle a porté l'évangile. Jésus lui est apparu, elle a porté l'évangile. Et puis quelqu'un m'a dit l'autre jour, ça ne vous dérange pas que ce soit une femme qui ait porté la première fois l'évangile ? Ça ne me dérange pas que ce soit une femme, après tout. Maintenant, ça ne me dérange pas. Parce que les apôtres étaient tous cachés, craintifs. Ils ne sont pas venus au tombeau, ce sont les femmes qui sont venues. Eh bien, mesdames, il vous revient la magnifique mission d'encourager les autres, d'encourager vos enfants et de dire à ceux que vous rencontrerez, le Seigneur est ressuscité. Amen.